Souterrain, un podcast Noria. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Souterrain, le podcast qui dévoile les rouages de l'enquête de terrain en sciences sociales. Pour cette nouvelle saison, chaque épisode vous propose un dialogue entre deux chercheurs ou chercheuses issus de disciplines ou d'horizons différents, mais qui partagent dans leur travail un terrain ou une thématique de recherche. Partant de ces points communs, ils et elles échangeront sur leurs expériences, leurs méthodologies, les défis rencontrés et les enseignements tirés. Grâce à cet échange et à des extraits sonores collectés par leurs soins, ils et elles nous font découvrir de façon inédite l'artisanat de la recherche. Syndicalisme policier, composé avec le devoir de réserve. Ce mardi 4 mars 2025, dans le cadre de l'enquête sur la mort de Naël, survenue en juin 2023, le parquet des Hauts-de-Seine a demandé la tenue d'un procès pour meurtre à l'encontre du policier ayant déclenché le tir mortel. Et c'est précisément ce terme de meurtre que contestent aujourd'hui les syndicats de police, qui n'ont pas tardé à dénoncer cette décision de justice, tout en réaffirmant leur soutien aux policiers mis en examen. Cet événement met en lumière le rôle que peut tenir le syndicalisme policier dont le pouvoir d'action reste souvent occulté, car si la police est avant tout perçue comme un instrument de répression des manifestations, on oublie qu'elle constitue aussi un corps professionnel capable de recourir à des modes de mobilisation similaires à ceux qu'elle est elle-même chargée d'encadrer et de contenir. Cette invisibilisation tient aussi à l'une des spécificités de ce secteur professionnel, le devoir de réserve, défini comme l'obligation de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles, ce qui ne facilite pas la tâche aux chercheurs lorsqu'il s'agit de recueillir la parole des forces de l'ordre. Comment donc faire parler ces policiers qui doivent eux-mêmes composer dans leur mobilisation avec leur devoir de réserve et de loyauté envers l'État ? Nous recevons aujourd'hui deux chercheuses qui ont fait face à cette problématique dans deux contextes politiques différents, en France et en Tunisie. Mario Guenot, bonjour.
Bonjour.
Tu es docteur en sciences politiques de l'Université Paris 8 et actuellement sociologue et chargée de recherche au CNRS. Ta recherche porte sur le travail et les métiers policiers, ainsi que les mobilisations collectives et le syndicalisme. Également avec nous, Audrey Pluta, bonjour.
Bonjour.
Tu es docteur en sociologie politique de Sciences Po Aix et de l'IREMAM. Ta thèse s'intitule « L'ordre de la démocratie, syndicats policiers et professionnels de la réforme sécuritaire en Tunisie 2011-2021 » et tu es actuellement chercheuse à l'IRSEM. Marion, tu as décidé de faire une thèse sur un corps de métier sur lequel tu portais de prime abord un regard négatif. Qu'est-ce qui t'a poussée à t'intéresser à la police et plus particulièrement aux revendications qu'elle porte ?
Alors tout simplement parce que ma porte d'entrée, c'est ce qu'on a appelé les groupes d'intervention régionaux de la police judiciaire, un service un peu particulier créé par Nicolas Sarkozy en 2002 pour reprendre le contrôle sur les quartiers et afficher un certain volontarisme politique et un durcissement des politiques liées à la sécurité. Donc en 2002, j'ai 14 ans, issu de ces quartiers, je décide d'en savoir plus sur ces services, sur ce qu'ils font, etc. Et à la fin de mon terrain de thèse, ce qui est assez frappant et marquant, c'est que donc en 2016, des policiers sont attaqués au cocktail Molotov dans leur voiture, ce qui va déclencher toute une série de manifestations de policiers en dehors des syndicats, c'est-à-dire que les syndicats sont dénoncés, et aussi les politiques qui ont été initiées à l'époque par Nicolas Sarkozy, et où un certain nombre de policiers disent « voilà où on en est du travail que vous nous faites mener chez des jeunes qui sont parfois des proies faciles pour la répression ». Mais qui crée en fait des conflits et des tensions. Je suis embarquée dans ce mouvement et ces mobilisations. Et c'est là-dessus que je décide de travailler, donc à la suite de ma thèse. Non seulement ces mobilisations en dehors des syndicats, mais aussi plus largement les syndicats policiers, parce qu'on s'y est très peu intéressé jusqu'ici.
Oui, on prête volontiers une absence de conscience sociale aux policiers. Audrey, donc toi, tu t'intéresses également à la police, mais en Tunisie. Qu'est-ce qui t'est venu en premier, le choix de l'objet de recherche ou celui du terrain ? Et est-ce que tu avais toi aussi des a priori négatifs sur la police en Tunisie ?
C'était déjà le choix du terrain qui s'est imposé à moi. J'étais en Tunisie, c'était une démarche personnelle, de retour aux sources, si je puis dire, parce que ma famille est d'origine tunisienne. Et j'étais en train de chercher un sujet de recherche et j'étais particulièrement intéressée par la révolution et par la question du changement de régime. Le sujet m'est venu lors d'une discussion un peu anodine a priori avec un membre de ma famille qui est officier dans l'armée tunisienne, qui m'explique que après 2011, il a pu changer de grade et évoluer, monter dans la hiérarchie, et il m'explique que il était empêché par manque de liens auprès de la famille de Ben Ali et des réseaux du pouvoir. Il était empêché, donc il ne pouvait pas passer un grade supérieur. Et donc, j'ai écrit mon mémoire de recherche sur l'armée, son rôle aussi en 2011. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de discours médiatiques autour de l'armée tunisienne, armée républicaine, et avec aussi des rumeurs autour du rôle supposé du chef d'état-major qui aurait dit non à l'ordre de faire feu sur la foule. Après, c'est faux, il n'a pas reçu cet ordre-là. Et donc voilà, mon travail de recherche à l'origine portait davantage sur l'armée. Puis je me suis intéressée, en fait, dans le cadre de ma recherche doctorale, sur l'armée et la police, parce que il y avait cet enjeu pour des organisations internationales de réformer les deux institutions dans un contexte donc de changement de régime. Et ensuite, je me suis aperçue que la comparaison entre les deux institutions ne faisait pas sens. En fait, ce sont deux institutions avec des cultures professionnelles très différentes. J'ai davantage choisi de m'intéresser à la police pour deux raisons. La première est pratique, c'est une institution, alors que l'armée demeure véritablement une grande muette en Tunisie également. La police était beaucoup plus facile d'accès, et notamment grâce aux syndicats, j'y reviendrai. Et le deuxième aspect est un aspect peut-être un peu plus citoyen, si je puis dire, c'est qu'à partir de 2011, émergent de véritables demandes populaires de changement des pratiques policières. Ça commence par l'abrogation de la police politique, mais aussi la dénonciation d'actes de violence, d'où mon intérêt pour la police et ce qu'un changement de régime fait à l'institution policière.
La police est un corps de métier qui est soumis aux devoirs de réserve, que ce soit en France ou en Tunisie. Comment récolter la parole dans ce contexte-là? On va d'abord écouter un extrait d'entretien que tu as réalisé, Audrey, avec Lotfi, donc qui est le secrétaire général d'une branche locale du syndicat des agents des unités d'intervention du gouvernorat de Gafsa, au centre-ouest de la Tunisie.
Les premières manifs, c'était à Sfax. Tamer était avec nous à ce moment-là, c'est lui qui les a organisées. Il y avait des citoyens qui nous ont violentés et cela a déclenché nos manifestations comme une réaction à cet incident. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres manifestations. Beaucoup de gens sont venus, la garde nationale et la protection civile. Beaucoup de responsables ne voulaient pas qu'on exerce des activités syndicales. Ils sont contre le travail syndical. Ils ne veulent pas qu'on défende nos intérêts et nos demandes. Ils sont contre les mobilisations, contre cette attitude qui fait qu'on sort et qu'on parle. Il représente l'ancien système et l'ancien pouvoir. Il y a des gens dans la police qui ont vraiment souffert de cela.
Oui, alors cet entretien que j'ai sélectionné, il intervient à un moment où je suis déjà insérée dans le syndicat. On arrive à peu près à savoir qui je suis. Ils m'ont vue lors de différentes manifestations organisées par le syndicat, et voilà. Donc, ce qui fait que cet agent s'est engagé dans l'entretien un peu avec une certaine confiance, en tout cas, ou au moins il arrivait à situer voilà, qui je suis. Ça explique cette espèce de liberté avec laquelle il s'exprime. Alors, il parle de choses qui, d'habitude, sont assez complexes à recueillir en entretien, notamment ce moment de 2011. Donc, c'est un agent des unités d'intervention qui étaient les principales unités responsables de la répression du mouvement social. En 2011, ils étaient dans une situation de fragilité. Après le départ de Ben Ali, il y avait vraiment cette sensation chez les agents des unités d'intervention en particulier d'être pris à partie par les citoyens, d'être en danger, etc. Et donc, c'est ce qu'il dit, la création des syndicats intervient vraiment comme une réaction des policiers pour se protéger. Ce qu'il mentionne également et qui montre qu'il a une conception un peu légère de son devoir de réserve, c'est quand il parle des relations avec la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à recueillir comme données, d'autant plus que son syndicat défend une politique plus co-gestionnaire dans la coopération avec le ministère de l'Intérieur. Mais ce qui m'a permis de recueillir ces données, c'est cette présence dans les manifestations. Il mentionne Temer, qui est un autre syndicaliste policier, avec lequel j'étais quand il m'a croisée dans une manifestation de ce syndicat à Tunis. Temer, qui est une sorte de figure importante dans le syndicat pour avoir été l'un des premiers à avoir mené ces manifestations dès le 15 janvier 2011, le lendemain du départ de Ben Ali. Et il a acquis une forme de pouvoir symbolique au sein de ce syndicat qui fait aussi que le fait de m'avoir vu avec lui, ça a créé une sorte de confiance entre lui et moi. Voilà.
Marion, il va falloir aussi que tu nous parles des relations très particulières justement que tu as nouées avec tes enquêtés, mais peut-être d'abord aussi, est-ce que pour toi le fait de passer par le syndicalisme, c'était une façon d'avoir accès à cette parole contestataire dans un cadre donc où les policiers sont tenus au devoir de réserve ?
Les syndicats policiers ont un devoir de réserve qui est atténué, c'est la formule. Et tout comme en fait leurs collègues, ils ne savent pas vraiment où ils commencent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Il y a cette idée que les syndicats policiers doivent se montrer loyaux à l'égard de l'institution, la protéger là où l'administration policière est parfois un petit peu en retrait. Et donc se pose la question d'accéder à une parole et de ne pas convoquer finalement cette parole publique et de mettre de côté tous les outils qui pourraient faire penser au journalisme, au plateau télévisé, etc. Parce que mettre un enregistreur sur la table, c'est de fait convoquer cette parole publique au lieu des propos un peu plus spontanés, un peu plus sincères. Ça permet d'avoir accès à une parole un peu plus individuelle des syndicalistes, et y compris aux débats qu'ils peuvent avoir entre eux.
Et donc toi, tu as choisi donc de ne pas faire d'entretien. Et comment est-ce que tu as commencé à nouer des relations justement avec tes enquêtés ?
Comme le disait Audrey, ce qui est important, c'est le temps qu'on passe avec eux, qui permet de gagner leur confiance, et c'est le fait de montrer qu'on est capable de parfois perdre notre temps à essayer différentes choses, être là dans des moments qui sont peut-être plus compliqués, et puis aussi savoir saisir des occasions de développer des dispositifs qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais donner l'exemple des entretiens avec mes enquêtés CRS. Quand je leur demandais d'évoquer leurs expériences de maintien de l'ordre, c'était des discours très vagues, très généraux. On avait l'impression un peu de parler à des manuels. Un beau jour vient une occasion d'une manifestation de salariés. Et donc, il y a les Black Blocs qui passent devant nous et ça leur fait très forte impression. Enfin, c'est un peu l'angoisse pour eux d'être isolé sans rien au milieu des Black Blocs qui, bien entendu, ne les remarquent pas. Puis il y a les fumigènes, les slogans, etc. Et là, les CRS avec qui je suis se retrouvent dans le bain. Là, se nouent des discussions extrêmement riches et extrêmement incarnées sur les expériences marquantes de maintien de l'ordre.
J'aimerais maintenant évoquer la façon justement dont vos enquêtés vous ont perçu et les conséquences que ça a pu avoir sur le terrain. Donc Marion, on peut imaginer qu'en tant que sociologue, tu aies pu être perçue comme une personne de gauche, potentiellement hostile à la police, et tu l'évoquais peut-être associée aux journalistes. Est-ce que ça a été effectivement le cas ?
Alors je m'y attendais, parce que au moment où je commence mon enquête, il y a eu des affrontements récents entre certains de mes proches collègues et ses enquêtés, donc sur les plateaux télévisés. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a surtout le prestige de ce que c'est que la recherche qui crée au départ une barrière. C'est-à-dire que dans les premiers entretiens que j'ai, je suis recontactée plusieurs fois en amont des entretiens où on me demande quelles seront mes questions, comment les préparer au mieux. Il y a une policière qui, avant de me recevoir, fait le tour des bureaux et accumule compulsivement de la documentation dont elle ne fera pas usage par la suite, mais pour essayer de pas se sentir mal à l'aise face à moi. C'est surtout un enjeu de casser cette barrière liée au titre, au capital culturel, etc. La plus belle proposition de refus que j'ai eue au départ de mon enquête, c'était de dire « mais nous, on n'est que des gardiens de la paix. Ce qu'on fait, c'est pas très intéressant intellectuellement. Peut-être qu'il vaudrait mieux voir avec les commissaires, c'est des gens qui vous ressemblent un peu plus et donc qui seraient plus intéressants pour vous. » Donc il a fallu casser ça.
Mais pas d'a priori négatif, et même, ils suivent ton travail.
Oui, effectivement, à ma grande surprise, chacune de mes interventions est suivie, mes articles sont lus avec intérêt. Il y a eu un engouement important autour de la recherche qui était surnommé « la démarche ». On a souvent l'idée, quand on dit qu'on va être relu par des policiers, qu'il va y avoir de la censure. Bien au contraire, ils sont très soucieux de maintenir le cadre de la recherche et très respectueux de ce cadre-là, très, très intéressés par chacune de ces productions, donc c'est un vrai échange.
Toi, Audrey, en tant que Française qui enquête en Tunisie, ce sont sans doute d'autres stéréotypes dont tu as pu faire l'objet. Et en l'occurrence, tu as dû faire face aux soupçons d'espionnage. Comment justement est-ce que tu as gagné dans ce cadre-là la confiance de tes enquêtés ?
Moi, déjà, j'ai joué de ma binationalité et de mes origines tunisiennes, notamment pour casser cette crainte qui pèse à l'égard de l'espionne, etc. Crainte ravivée par le fait que je parle en arabe. Les entretiens se sont faits en arabe tunisien. Et il est vrai que c'est le genre de situation qui, pour les policiers tunisiens, suscite certaines interrogations du fait aussi sûrement que, contrairement peut-être aux policiers avec lesquels s'est entretenu Marion, pour eux, c'était vraiment quelque chose d'inédit, hein, en fait, dans la démarche d'être confronté à une chercheuse. Ils avaient parfois l'habitude de recevoir des journalistes, mais c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour eux. Donc, très vite, j'ai été perçue comme la franco-tunisienne, la tunisienne de l'étranger, dans un entre-deux, ce qui m'a permis, en fait, de ne pas être perçue comme donc une Tunisienne à part entière dont on supposerait qu'elle entretient une forme d'inimitié à l'égard de la police, et de ne pas non plus être perçue comme complètement étrangère, donc avec déjà une importante distance sociologique, mais aussi avec ce soupçon de travailler avec un agenda caché. Ça a été important aussi dans la sélection de mes terrains. En fait, je me suis rendue dans le gouvernorat de Gafsa, ma famille est originaire de là-bas. Et après des entretiens, donc j'ai fait des entretiens, mais c'était des entretiens qui parfois prenaient plus la forme d'une très longue conversation. Ça pouvait durer une journée, des fois ça s'étalait aussi sur plusieurs jours. C'était facilité par le fait que ce n'était pas à Tunis, c'était des gens qui avaient un peu plus de temps. Après ces longues journées, ils me ramenaient au domicile d'une membre de la famille, ce qui faisait qu'ils arrivaient à me situer en fait comme appartenant à telle famille. Et donc ça avait vraiment facilité les rapports avec eux. Ensuite, j'ai vécu quelque chose d'un peu similaire à ce que raconte Marion, notamment dans des moments de conflit entre nos enquêtés et des proches issus d'autres cercles sociaux. Dans mon cas, c'était des cercles amicaux. J'ai vécu ça début 2021 en Tunisie, où il y avait une des séries de manifestations dont les mots d'ordre n'étaient pas uniquement dirigés sur les violences policières, mais la dénonciation des violences policières en faisait partie. Et donc j'ai pris part à certaines de ces manifestations, je les ai observées aussi, prises en photo, etc. À certains moments, j'ai pu croiser certains de mes enquêtés de l'autre côté de la barricade. C'est des moments où, en 2021, le Covid-19, il y avait une vague de Covid-19 en Tunisie, donc on était masqués et j'ai profité de ce masque justement pour ne pas être repérée. Et là, ça aurait peut-être pu être problématique d'être perçue dans le camp adverse, parce que pour eux, c'était vraiment un moment qui cristallisait ce contre quoi il se positionnait, en essayant de légitimer l'image d'une institution au nid.
Ok. Le gouvernement vient de faire ses annonces. Et il a raison, le collègue retraité. La situation est grave. Alors voilà. En tant que flic, par définition, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Au-delà du code 562, soyons solidaires. On nous enlève du fric, n'en faites plus rentrer. On nous rallonge nos carrières, réduisez votre activité. On nous méprise, soyons solidaires face à l'État. Ensemble, s'il faut bloquer le système, suivez-nous.
On voit bien la tension entre l'expression du mécontentement et la loyauté due à l'État. Il évoquait le code 562. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est ? Et plus largement, sur ton terrain, quelles sont finalement les spécificités du répertoire d'action qui est déployé par les policiers lors de leur manifestation ?
Il y a un clip dans lequel un policier explique ce que c'est que cette MCI 562. C'est la main courante informatisée pour faire vite. Ça signale quand on est en patrouille sur le terrain qu'on est en position d'attente. Ça, c'est une des manières qu'ont les policiers de manifester parce qu'ils n'ont pas le droit de grève. C'est tout simplement de faire ce qu'ils appellent être leur vrai cœur de métier. Donc ça, c'est intéressant. Le vrai cœur de métier, qu'est-ce que c'est ? C'est répondre à la population quand elle nous appelle au secours. Et tout ce qui relève donc des contrôles routiers, des contrôles d'identité, des opérations anti-stupéfiants, etc., bah ça, c'est laissé de côté. Comme ils disent dans le clip, on ne fait plus de PV. Et donc, ça fait partie des pratiques de protestation collective un petit peu à la lisière du droit de grève. Dans le cadre de ce mouvement de 2019, à la date à laquelle est sorti ce clip, il y avait aussi la police aux frontières, des contrôles complets de chaque voyageur. Donc, ça prenait entre 20 et 30 minutes par voyageur. Les files d'attente explosaient, les vols ne pouvaient pas décoller, donc ça mettait le bazar. Il y avait aussi les compagnies républicaines de sécurité qui étaient en arrêt maladie. À ce moment-là, on approche la fin de la semaine et le moment où il va falloir faire le maintien de l'ordre parce qu'on est en plein dans le contexte. Enfin voilà, il y a encore un peu les gilets jaunes et le mouvement des retraites. Et il y a cette idée que le maintien de l'ordre pourrait être affaibli par la contestation policière. Fort heureusement, quelques heures avant l'approche du week-end, le mouvement a été suspendu. Mais on m'a bien expliqué dans les rangs des syndicats policiers que, en fait, on ne pouvait pas se permettre de telles choses, de mettre fin au maintien de l'ordre face aux manifestants classiques, avec l'idée, très clairement, on n'est pas des cheminots, on ne peut pas être des jusqu'au boutistes, ça n'a jamais existé chez nous. Donc il y a cette loyauté très forte. Peu de temps après les gilets jaunes, les policiers se perçoivent vraiment comme le dernier rempart du maintien de l'ordre.
Donc pas de violence dans les manifestations?
Non, c'est vraiment très discipliné. Les collègues qui m'ont parfois rejoint dans ces manifestations m'ont souvent dit « c'est très calme, en fait, on s'ennuie un peu ». Hormis quelques slogans, il y a souvent surtout des discussions. Le manifestant policier est très discipliné. Il faut surtout s'habituer à chanter la Marseillaise, à faire la bise aux CRS qui sont, eux, en charge du maintien de l'ordre, ce qui est assez inhabituel quand on est manifestant de gauche classique, quoi.
Audrey, en Tunisie, les policiers font-ils face à une problématique similaire et quel répertoire d'action adoptent-ils ?
C'est intéressant parce qu'en Tunisie, on retrouve des dynamiques similaires, notamment des manifestants particulièrement disciplinés. Dans une des manifestations que j'avais pu observer, le lieu de la manifestation où se déroulait un sit-in était délimité par des barrières de sécurité et on ne rentrait que sur la présentation d'une carte de presse avec une sélection en amont des journalistes invités à participer ou pas. Le policier qui faisait la garde devant ces barrières m'a invité à appeler un de mes enquêtés qui était présent sur les lieux de la manifestation pour venir me chercher. Donc des manifestations très contrôlées. Ça dénote aussi des rapports plutôt positifs de collaboration avec les pouvoirs publics parce qu'on est en plein centre de Tunis devant le siège du gouvernement et ils installent une immense estrade où quelques mètres plus loin le secrétaire général du syndicat est en pour parler avec le gouvernement et revient de temps à autre sur cette estrade pour exprimer les demandes qui, à l'époque, étaient des demandes économiques et sociales, mais aussi pour la prise en compte des diplômes universitaires dans l'avancée en grade. Des manifestations très cadrées, mais ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et là, on a deux pôles syndicaux en Tunisie. Donc là, c'était des manifestations de l'équivalent en Tunisie des CRS, donc les brigades de l'ordre public. Mais d'autres syndicats ont des méthodes beaucoup plus confrontationnelles, ce qui parfois donne lieu à des situations où des affrontements ont lieu entre des policiers dépêchés par le ministère de l'Intérieur pour justement déloger d'autres policiers qui mettaient en place un sit-in. On avait une forme de division du travail syndical militant en Tunisie.
L'actualité peut avoir des conséquences sur une recherche. Par exemple, en France, la police est souvent au cœur de l'actualité sur des questions de violence et de bavure policière. Les chercheurs sont souvent sollicités pour venir en parler et apporter un éclairage. Marion, en ce qui te concerne, est-ce que tu interviens dans le débat public ?
Alors non, je refuse de discuter en ces termes. Je suis très souvent invitée parce que je travaille sur le syndicalisme policier, donc revient très régulièrement les questions de mais qui sont ces syndicats, pourquoi on leur donne autant de poids, etc. Et il y a eu un complément d'enquête, par exemple, spécialement sur eux. Ça fait bizarre de retrouver ces enquêtés dans des dispositifs très dans la défense de l'institution et puis ensuite caricaturés par les dispositifs. Sur le temps de mon enquête, quand je les accompagnais, j'ai vu à l'œuvre certaines méthodes de manière de figer les positions et de les caricaturer. Je ne peux pas participer en fait à ces dispositifs qui opposent finalement des policiers représentés comme des espèces d'excités avec qui on ne peut pas discuter et puis d'autre part des chercheurs un peu déconnectés, enfin voilà, de certaines situations auxquelles sont confrontés les policiers. Et c'est aussi l'assurance que les savoirs et les données que j'accumule ne seront finalement pas retournés contre eux. Et donc, pour toutes ces raisons, d'intervenir sur les chaînes d'information continue, ça m'est déjà arrivé de me dire je vais essayer de voir ce que ça peut donner et puis de me retirer des dispositifs voyant que c'était pour raconter toujours la même chose finalement.
Quand on parle de la Tunisie aujourd'hui, c'est surtout dans le cadre du virage autoritaire de Kais Saied depuis 2021. Est-ce que, Audrey, tu interviens dans le débat public à partir de tes recherches menées auprès des policiers pour informer sur la situation ?
En ce moment, non, pas tellement. Alors, d'une part, parce qu'en fait, la plupart des enquêtés qui ont fait vraiment mon travail de thèse sont aujourd'hui dans des positions pour le moins délicates. Alors, cela va de l'emprisonnement à au fait d'avoir été mise au placard, virée de la police. Donc voilà, là, c'est un petit peu différent. Et on voit que le tournant autoritaire qu'a pris le pouvoir en Tunisie, c'est notamment appuyé sur le fait d'avoir repris le contrôle de l'institution sécuritaire, et c'est notamment passé par le fait de supprimer ou de rendre les conditions d'une activité syndicale quasiment impossible. Je suis intervenue par le passé hein, dans le débat en Tunisie, notamment lorsqu'il était question de faire passer une loi de protection des forces de sécurité, qui était une demande en fait des syndicats de police. Là, j'ai répondu à des sollicitations des journalistes et aussi de collectifs militants en Tunisie qui cherchaient à savoir, en fait, parce qu'il y avait vraiment une demande de connaissance à l'égard de ces syndicats. Qui sont-ils ? Comment se sont-ils formés ? Sur quel texte réglementaire repose leur activité, etc. Mais là, actuellement, aujourd'hui, en Tunisie, les conditions sont telles que exercer une activité de recherche sur un sujet lié aux questions sécuritaires est très, très complexe.
Merci beaucoup Marion Guénaud et Audrey Pluta de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Nous avons pu comprendre les difficultés spécifiques d'un terrain encadré par un devoir de réserve et découvert de nombreuses pistes pour y avoir accès. Je suis Mathilde Tonfourcade et ce podcast, produit par Noria Research, a été préparé par Cécile Jean-Mougin, Camille Abesca, Sixtine Desrour, Claire Leforrieux et Iris Lambert. Un grand merci à François-Xavier Bertin, Robin Cordier, Martin Grandperret pour la réalisation de cet épisode. À bientôt.